Romain Rolland, Jean-Christophe, tome 8, Les Amis. Chapitre 1er. En dépit du succès qui se dessinait hors de France, la situation matérielle des deux amis était lente à s'améliorer. Périodiquement revenaient des moments difficiles où l'on était obligé de se serrer le ventre. On se dédommageait en mangeant double ration quand on avait de l'argent. Mais c'était à la longue un régime exténuant. Pour le moment, ils étaient dans la période des vaches maigres. Christophe avait passé la moitié de la nuit à achever un travail insipide de transcription musicale pour Hecht. Il ne s'était couché qu'à l'aube, et il dormait à point fermé, afin de rattraper le temps perdu. Olivier était sorti de bonne heure. Il avait un cours à faire à l'autre bout de Paris. Vers 8 heures, le concierge qui montait les lettres sonna. D'habitude, il n'insistait pas et glissait les papiers sous la porte. Il continua de frapper ce matin-là. Christophe, mal éveillé, alla ouvrir en bougonnant. Il n'écouta point ce que le concierge, souriant et prolixe, lui disait à propos d'un article de journal. Il prit les lettres sans les regarder, poussa la porte sans la fermer, se recoucha et se rendormit de plus belle. 1 heure après, il était de nouveau réveillé en sursaut par des pas dans sa chambre, et il avait la stupéfaction de voir au pied de son lit une figure inconnue qui le saluait gravement. Un journaliste, trouvant la porte ouverte, était entré sans façon. Christophe, furieux, sauta du lit. « Qu'est-ce que vous venez foutre ici ?» Il avait empoigné son oreiller pour le jeter sur l'intrus qui esquissa un mouvement de retraite. Ils s'expliquèrent. Un reporter de La Nation désirait interviewer M. Kraft au sujet de l'article paru dans le grand journal. Quel article ? Il ne l'avait pas lu ? Le reporter s'offrait à lui en donner connaissance. Christophe se recoucha. S'il n'avait été engourdi par le sommeil, il eût mis l'homme à la porte, mais il trouva moins fatigant de le laisser parler. Il s'enfonça dans le lit, ferma les yeux et feignit de dormir. Il eut fini par jouer son rôle au naturel, mais l'autre était tenace et lisait d'une voix forte le début de l'article. Dès les premières lignes, Christophe ouvrit l'oreille. On y parlait de M. Kraft comme du premier génie musical de l'époque. Oubliant son personnage de dormeur, Christophe jura d'étonnement et, se dressant sur son séant, il dit « Ils sont fous, qu'est-ce qui les a pris ?» Le reporter en profita pour interrompre sa lecture et lui poser une série de questions auxquelles Christophe répondit sans réfléchir. Il avait pris l'article et contemplait avec stupéfaction son portrait qui s'étalait en première page. Mais il n'eut pas le temps de lire, car un second journaliste venait d'entrer dans la chambre. Cette fois, Christophe se fâcha tout le bon. Il les somma de vider la place, ce qu'ils ne firent point, avant d'avoir relevé rapidement la disposition des meubles dans la chambre, les photographies au mur et la physionomie de l'original qui, riant et furieux, les poussait par les épaules et les escorta en chemise jusqu'à la porte qu'il verrouilla derrière eux. Mais il était dit qu'on ne le laisserait pas tranquille ce jour-là. Il n'avait pas fini sa toilette qu'on frappait de nouveau à la porte, d'une façon convenue, que savaient seuls quelques intimes. Christophe ouvrit, et se trouva en présence d'un troisième inconnu qu'il se mettait en devoir d'expulser rondement, quand l'autre, en protestant, excipa de son titre d'auteur de l'article. Le moyen d'expulser qui vous traite de génie. Christophe maussade, dut subir les effusions de son admirateur. Il s'étonnait de cette notoriété soudaine qui lui tombait des nues, et il se demandait s'il avait, sans s'en douter, la veille, fait jouer quelque chef-d'œuvre. Il n'eut pas le temps de s'informer. Le journaliste était venu pour l'enlever, de gré ou de force, et le conduire, séance tenante, au bureau du journal où le directeur, le grand Arsène Gamache lui-même, voulait le voir. L'auto attendait en bas. Christophe essaya de se défendre, mais naïf et sensible malgré lui aux protestations d'amitié, il finit par se laisser faire. 10 minutes plus tard, il était présenté au potentat devant qui tout tremblait. Un robuste gaillard d'une 50aine d'années, petit et râblé, grosse tête ronde, aux cheveux gris taillés en brosse, la face rouge, la parole impérieuse, l'accent lourd et emphatique, avec des accès de volubilité caillouteuse. Il s'était imposé à Paris par son énorme autogobisme. Homme d'affaires et manieur d'homme, égoïste, naïf et roué, passionné, plein de lui, il assimilait ses affaires à celles de la France et même de l'humanité. Son intérêt, la prospérité de son journal et la Salus Publica lui semblaient du même ordre et étroitement associés. Il n'avait point de doute que qui lui faisait tort à la France. Et pour écraser un adversaire personnel, il eut de bonne foi bouleversé l'État. Au reste, il n'était pas incapable de générosité. Idéaliste, comme on l'est après dîner, il aimait, à la façon de Dieu le Père, à faire de temps en temps sortir de la poussière quelques pauvres bougres, afin que se manifestât la grandeur de son pouvoir, qui de rien faisait une gloire, qui faisait les ministres, qui aurait pu, s'il eût voulu, faire des rois et les défaire. Sa compétence était universelle. Il faisait aussi des génies s'il lui plaisait. Ce jour-là, il venait de faire Christophe. C'était Olivier qui avait, sans y penser, attaché le grelot. Olivier, qui ne faisait aucune démarche pour lui-même, qui avait horreur de la réclame et fuyait les journalistes comme la peste, se croyait tenu à d'autres devoirs quand il s'agissait de son ami. Il était comme ses tendres mamans, honnêtes petites bourgeoises, épouses irréprochables, qui vendraient leur corps pour acheter un passe-droit en faveur de leur garnement de fils. Écrivant dans les revues, et se trouvant en contact avec nombre de critiques et de dilettantes, Olivier ne laissait pas une occasion de parler de Christophe. Et, depuis quelque temps, il avait la surprise de voir qu'il était écouté. Il saisissait autour de lui un mouvement de curiosité, une rumeur mystérieuse, qui se propageait dans les cercles littéraires et mondains. Quelle en était l'origine? Était-ce quelques échos de journaux, à la suite des exécutions récentes d'œuvres de Christophe, en Angleterre et en Allemagne? Il ne semblait pas qu'il y eût une cause précise. C'était un de ces phénomènes bien connus des esprits aux aguets, qui hument l'air de Paris, et mieux que l'observatoire météorologique de la Tour Saint-Jacques, savent, un jour à l'avance, le vent qui se prépare et ce qu'il apportera demain. Dans cette grande ville nerveuse, où passent des frissons électriques, il y a des courants invisibles de gloire, une célébrité latente qui précède l'autre, ce bruit vague de salon, ce nescio quid maius nascitur iliad, qui, à un moment donné, éclate en un article réclame, le grossier coup de trompette qui fait pénétrer dans les plus durs tympans le nom de l'idole nouvelle. Il arrive d'ailleurs que cette fanfare fasse fuir des premiers et des meilleurs amis de l'homme qu'elle célèbre. Ils en sont pourtant responsables. Ainsi, Olivier avait sa part dans l'article du grand journal. Il avait profité de l'intérêt qui se manifestait pour Christophe, et il avait eu soin de le réchauffer par d'adroites informations. Il s'était gardé de mettre Christophe directement en rapport avec les journalistes. Il craignait quelque incartade. Mais, sur la demande du grand journal, il avait eu la rouerie de faire rencontrer, à la table d'un café, Christophe avec un reporter, sans qu'il se doutât de rien. Toutes ces précautions irritaient la curiosité et rendaient Christophe plus intéressant. Olivier n'avait jamais eu affaire encore avec la publicité. Il n'avait pas calculé qu'il mettait en branle une machine redoutable qu'on ne pouvait plus, une fois lancée, diriger ni modérer. Il fut anéanti quand il lut, en se rendant à son cours, l'article du Grand Journal. Il n'avait pas prévu ce coup de massue. Il comptait que le journal attendrait, pour écrire, d'avoir réuni toutes les informations et de connaître mieux ce dont il voulait parler. C'était trop de naïveté. Si un journal se donne la peine de découvrir une gloire nouvelle, c'est pour lui, bien entendu, et afin d'enlever aux confrères l'honneur de la découverte. Il lui faut donc se presser, quitte à ne rien comprendre à ce qu'il loue. Mais il est rare que l'auteur s'en plaigne. Quand on l'admire, il est toujours assez compris. Le grand journal, après avoir débité des histoires absurdes sur la misère de Christophe, qu'il représentait comme une victime du despotisme allemand, un apôtre de la liberté, contraint de fuir l'Allemagne impériale et de se réfugier en France, asile des âmes libres, beau prétexte à des tirades chauvines, faisait un éloge écrasant de son génie dont il ne connaissait rien, rien que quelques plates mélodies qui dataient des débuts de Christophe en Allemagne et que Christophe, honteux, eût voulu anéantir. Mais si l'auteur de l'article ignorait l'œuvre de Christophe, il se rattrapait sur ses intentions, sur celles qu'il lui prêtait. Deux ou trois mots, recueillis çà et là de la bouche de Christophe et d'Olivier, voire même de quelques goujards qui se disaient bien informés, lui avaient suffi pour construire l'image d'un Jean-Christophe, génie républicain, le grand musicien de la démocratie. Il profitait de l'occasion pour médire des musiciens français contemporains, surtout des plus originaux et des plus indépendants, qui se souciaient fort peu de la démocratie. Il n'acceptait qu'un ou deux compositeurs dont les opinions électorales lui semblaient excellentes. Il était fâcheux que leur musique le fût beaucoup moins. Mais c'était là un détail. Au reste, leur éloge, et même celui de Christophe, avait moins d'importance que la critique des autres. À Paris, quand on lit un article qui fait l'éloge d'un homme, il est toujours prudent de se demander « De qui médit-on ?» Olivier rougissait de honte à mesure qu'il parcourait le journal, et il se disait « J'ai bien travaillé ». Il eut peine à faire son cours. Aussitôt délivré, il courut à la maison. Quelle fut sa consternation quand il apprit que Christophe était déjà sorti avec des journalistes. Il l'attendit pour déjeuner. Christophe ne revint pas. D'heure en heure, Olivier, plus inquiet, pensait « Que de sottises ils lui font dire !» Vers 3 heures, Christophe rentra tout guilleret. Il avait déjeuné avec Arsène Gamache, et sa tête était un peu brouillée par le champagne qu'il avait bu. Il ne comprit rien aux inquiétudes d'Olivier, qui lui demandait anxieusement ce qu'il avait dit et fait. « Ce que j'ai fait ? Un fameux déjeuner. Il y avait longtemps que je n'avais aussi bien mangé. » Il lui raconta le menu. « Et des vins, j'en ai absorbé de toutes les couleurs. » Olivier l'interrompit pour lui parler des convives. Les convives, je ne sais pas. Il y avait Gamache, un homme tout rond, franc comme l'or. Claude Omir, l'auteur de l'article, un garçon charmant. 3 ou 4 journalistes que je ne connais pas, très gais, tous bons et charmants pour moi, la crème des braves gens. Olivier n'avait pas l'air convaincu. Christophe était étonné de son peu d'enthousiasme. Est-ce que tu n'as pas lu l'article ? « Si, justement. Et toi, est-ce que tu l'as bien lu ?»« Oui, c'est-à-dire, j'ai jeté un coup d'œil. Je n'ai pas eu le temps. »« Eh bien, lis donc un peu. » Christophe lut. Aux premières lignes, il s'esclaffa. « Ah, l'imbécile » fit-il. Il se tordait de rire. « Bah, continua-t-il, tous les critiques se valent. Ils ne connaissent rien. » Mais à mesure qu'il lisait, il commençait à se fâcher. C'était trop bête. On le rendait ridicule. Qu'on voulût faire de lui un musicien républicain, cela n'avait aucun sens. Enfin, passons sur cette calembredaine. Mais qu'on opposât son art républicain à l'art de sacristie des maîtres venus avant, lui qui se nourrissait de l'âme de ces grands hommes, c'était trop. Bougre de crétin, ils vont me faire passer pour un idiot. Et puis, quelle raison d'éreinter à son sujet des musiciens français de talent qu'il aimait plus ou moins, et plutôt moins que plus, mais qui savaient leur métier et y faisaient honneur. Et, le pire, on lui prêtait des sentiments odieux à l'égard de son pays. Non, cela ne pouvait se supporter. « Je m'en vais leur écrire, » dit Christophe. Olivier s'interposa. « Non, pas maintenant, tu es trop excité. Demain, à tête reposée. » Christophe s'obstina. Quand il avait quelque chose à dire, il ne pouvait attendre. Il promit seulement à Olivier de lui montrer sa lettre. Ce ne fut pas inutile. La lettre dûment révisée, où il s'attachait surtout à rectifier les opinions qu'on lui attribuait sur l'Allemagne, Christophe courut la mettre à la poste. « Comme cela, dit-il en revenant, il n'y a que demi-mal. La lettre paraîtra demain. » Olivier secoua la tête d'un air de doute. Puis, toujours préoccupé, il demanda à Christophe, en le regardant bien dans les yeux, « Christophe, tu n'as rien dit d'imprudent au dîner. » « Mais non, » fit Christophe en riant. « Bien sûr ? Oui, poltron. » Olivier fut un peu rassuré. Mais Christophe ne l'était guère. Il venait de se rappeler qu'il avait parlé à tort et à travers. Tout de suite, il s'était mis à l'aise. Pas un instant, il n'avait songé à se défier des gens. Ils lui semblaient si cordiaux, si bien disposés pour lui. Et, en vérité, il l'était. On est toujours bien disposé pour ceux à qui l'on a fait du bien. et Christophe témoignait une joie si franche qu'elle se communiquait aux autres. Son affectueux sans-façon, ses boutades joviales, son énorme appétit et la rapidité avec laquelle les liquides disparaissaient sans l'émouvoir dans son gosier n'étaient pas pour déplaire à Arsène Gamache, solide à table lui aussi, rude, rusto et sanguin, plein de mépris pour les gens qui ne se portaient pas bien, pour ceux qui n'osent pas manger ni boire, pour les petits claqués parisiens. Il jugeait d'un homme à table. Il apprécia Christophe. Séance tenante, il lui proposa de faire monter son Gargantua en opéra à l'opéra. Le comble de l'art pour ces bourgeois français était alors de mettre sur la scène la Damnation de Faust ou les 9 symphonies. Christophe, que cette idée burlesque fit éclater de rire, eut beaucoup de peine à l'empêcher de téléphoner ses ordres à la direction de l'opéra ou au ministère des Beaux-Arts. À en croire Gamache, il semblait que tous ces gens fussent à son service. Et cette proposition, lui rappelant l'étrange déguisement qu'on avait fait naguère de son poème symphonique « David », il se laissa aller à raconter l'histoire de la représentation organisée par le député Roussin pour les débuts de sa belle amie. Gamache, qui n'aimait point Roussin, fut enchanté. Et Christophe, mis en verve par les vins généreux et la sympathie de l'auditoire, se lança dans d'autres histoires indiscrètes dont ceux qui les écoutaient ne perdirent rien. Seul Christophe les avait oubliés en sortant de table. Et voici qu'à la question d'Olivier, elle lui revenait à l'esprit. Il sentait un petit frisson lui courir le long de l'échine, car il ne se faisait pas d'illusions. Il avait suffisamment d'expérience pour se douter de ce qui allait se passer. À présent que sa griserie était tombée, il le voyait aussi nettement que si c'était déjà fait. Ses indiscrétions déformées, publiées en écho de gazettes médisantes. Ses boutades artistiques changées en armes de guerre. Quant à sa lettre de rectification, il savait, aussi bien qu'Olivier, à quoi s'en tenir là-dessus. Répondre à un journaliste, c'est perdre son encre. Un journaliste a toujours le dernier mot. Tout se passa de point en point, comme Christophe l'avait prévu. Les indiscrétions parurent, et la lettre de rectification ne parut pas. Gamache se contenta de lui faire dire qu'il reconnaissait là sa générosité de cœur, que de tels scrupules l'honoraient. Mais il garda jalousement le secret de ses scrupules. Et les opinions fausses attribuées à Christophe continuèrent de se répandre, soulevant des critiques acerbes dans les journaux parisiens, puis de là en Allemagne, où l'on s'indigna qu'un artiste allemand s'exprimât avec aussi peu de dignité sur le compte de son pays. Christophe crut très habile de profiter de l'interview que lui faisait subir le reporter d'un autre journal pour protester de son amour pour le Deutsches Reich, où l'on était, disait-il, pour le moins aussi libre qu'en République française. Il parlait au représentant d'un journal conservateur qui lui prêta sur le champ des déclarations anti-républicaines. « De mieux en mieux, » dit Christophe. « Ah, ça, qu'est-ce que ma musique a à faire avec la politique ?»« C'est l'habitude chez nous, » dit Olivier. « Regarde les batailles qui se livrent sur le dos de Beethoven. Les uns font de lui un jacobin, les autres un calotin, ceux-là un père du chêne, ceux-ci un valet de prince. » « Ah, comme il leur flanquerait à tous son pied au cul !»« Eh bien, fais de même !» Christophe en avait bien envie, mais il était trop bon garçon avec ceux qui étaient aimables pour lui. Olivier n'était jamais rassuré quand il le laissait seul, car on venait toujours l'interviewer. Et Christophe avait beau promettre de se surveiller, il ne pouvait s'empêcher d'être expansif. Il disait tout ce qui lui passait par la tête. Il arrivait des journalistes femelles qui se disaient ses amis et le faisaient causer de ses aventures sentimentales. D'autres se servaient de lui pour dire du mal de tel ou tel. Quand Olivier rentrait, il trouvait Christophe tout penaud. « Encore quelques bêtises ? » demandait-il. « Toujours, » disait Christophe, atterré. « Tu es donc incorrigible. Je suis bon à enfermer, mais cette fois, je te jure, c'est la dernière. Oui, oui, jusqu'à la prochaine. Non, cette fois, c'est fini. » Le lendemain, Christophe, triomphant, dit à Olivier, « Il en est venu un, je l'ai fichu à la porte. »« Il ne faut pas exagérer, » dit Olivier. « Sois prudent avec eux. Cet animal est très méchant, il vous attaque quand on se défend. » Il leur est si facile de se venger. Il tire parti des moindres mots qu'on dit. Christophe se passa la main sur le front. Ah, bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est que je lui ai dit, en fermant la porte.
Quoi donc?
Le mot de l'empereur.
De l'empereur?
Oui, enfin, si ce n'est lui, c'est donc quelqu'un des siens.
Malheureux! Tu vas le voir en première page du journal.
Christophe frémit. Mais ce qu'il vit le lendemain, ce fut une description de son appartement, où le journaliste n'était pas entré, et une conversation qu'il n'avait pas tenue. Les informations s'embellissaient en se propageant. Dans les journaux étrangers, elles s'agrémentaient de contresens. Des articles français ayant raconté que Christophe, dans sa misère, transposait de la musique pour guitare, Christophe apprit d'un journal anglais qu'il avait joué de la guitare dans les cours. Il ne lisait point que des éloges, tant s'en faut. Il suffisait que Christophe eût été patronné par le grand journal pour qu'il fût aussitôt pris à partie par les autres journaux. Il n'était pas de leur dignité d'admettre qu'un confrère pût découvrir un génie qu'ils avaient ignoré. Ils en faisaient des gorges chaudes. Gaugère, vexé qu'on lui eût coupé l'herbe sous le pied, écrivait un article pour remettre, disait-il, les choses au point. Il parlait familièrement de son vieil ami Christophe, dont il avait guidé les premiers pas à Paris. C'était un musicien bien doué, certainement, mais, il pouvait le dire puisqu'ils étaient amis, insuffisamment instruit, sans originalité, d'un orgueil extravagant. On lui rendait le plus mauvais service en flattant cet orgueil, d'une façon ridicule, alors qu'il eût eu besoin d'un mentor avisé, savant, judicieux, bienveillant et sévère, tout le portrait de Goujard. Les musiciens riaient jaune. Ils affectaient un mépris écrasant pour un artiste qui jouissait de l'appui des journaux, et, jouant le dégoût du servum pecus, ils refusaient les présents d'Ataxerces qui ne les leur offraient point. Les uns flétrissaient Christophe, les autres l'accablaient sous le poids de leur commisération. Certains s'en prenaient à Olivier, c'était de ses confrères. Ils lui gardaient rancune de son intransigeance et de la façon dont il les tenait à l'écart, plus à vrai dire par goût de la solitude que par dédain pour eux. Mais ce que les hommes pardonnent le moins, c'est qu'on puisse se passer d'eux. Quelques-uns n'étaient pas loin de laisser entendre qu'ils trouvaient son profit personnel aux articles du grand journal. Il en était qui prenait la défense de Christophe contre lui. Il montrait des mines navrées de l'inconscience d'Olivier, qui jetait un artiste délicat, rêveur, insuffisamment armé contre la vie, Christophe, dans le vacarme de la foire sur la place, où fatalement il se perdrait. On ruinait, disait-il, l'avenir de cet homme, dont, à défaut de génie, le travail opiniâtre méritait un meilleur sort, et qu'on grisait avec un encens de mauvaise qualité. C'était une grande pitié. Ne pouvait-on le laisser dans son ombre, travailler patiemment? Christophe aurait eu beau jeu à leur répondre, « Pour travailler, il faut manger. Qui lui donnera du pain ?» Mais cela ne les eût pas interloqués. Ils eussent répondu, avec leur splendide sérénité, « C'est un détail, il faut souffrir. » Naturellement, c'étaient des gens du monde qui professaient ces théories stoïques. Tel ce millionnaire, répliquant à un naïf qui lui demandait son secours pour un artiste dans la misère, « Mais monsieur, Mozart est mort de misère !» Ils eussent trouvé de mauvais goût qu'Olivier leur dit que Mozart n'eût pas demandé mieux que de vivre et que Christophe y était résolu. Christophe était excédé de ses cancans de portière. Il se demandait s'il durerait toujours. Mais après 15 jours, ce fut fini. Les journaux ne parlèrent plus de lui. Seulement, il était connu. Quand on prononçait son nom, chacun disait non pas l'auteur de David ou de Gargantua, mais « Ah oui, l'homme du grand journal !» C'était la célébrité. Olivier s'en aperçut au nombre de lettres que recevait Christophe et qu'il recevait lui-même par ricochet, offre de librettiste, proposition d'entrepreneur de concert, protestations d'amis de la dernière heure, qui avaient été souvent des ennemis de la première, invitations de femmes. On lui demandait aussi son avis, pour des enquêtes de journaux, sur la dépopulation de la France, sur l'art idéaliste, sur le corset des femmes, sur le nu au théâtre, s'il ne croyait pas que l'Allemagne était en décadence, que la musique était finie, etc., etc.
ils en riaient ensemble. Mais tout en s'en moquant, ne voilà-t-il pas que Christophe, ce Huron, acceptait les invitations à dîner. Olivier n'en croyait pas ses yeux. « Toi ? » disait-il. «
Moi, parfaitement, » répondait Christophe goguenard. « Tu croyais qu'il n'y avait que toi pour aller voir les madames ?
À mon tour, mon petit. Je veux m'amuser. »«
T'amuser, mon pauvre vieux ?»
La vérité était que Christophe, depuis si longtemps, vivait enfermé chez lui, qu'il était pris soudain d'un besoin violent d'en sortir. Et puis, il éprouvait une joie naïve à humer la gloire nouvelle. Il s'ennuya d'ailleurs copieusement dans ses soirées et trouva le monde idiot. Mais quand il rentrait, malignement, il disait le contraire à Olivier. Il allait chez les gens, mais il n'y retournait pas. Il trouvait des prétextes saugrenus, d'un sans-gêne effarant, pour esquiver leur réinvitation. Olivier en était scandalisé. Christophe riait aux éclats. Il n'allait pas dans les salons pour cultiver sa renommée, mais pour renouveler sa provision de vie, son musée de regard, de gestes, de timbres de voix, tout ce matériel de forme, de son et de couleur dont l'artiste a besoin d'enrichir périodiquement sa palette. Un musicien ne se nourrit pas seulement de musique. Une inflexion de la parole humaine, le rythme d'un geste, l'harmonie d'un sourire, lui suggère plus de musique que la symphonie d'un confrère. Mais il faut ajouter que cette musique des visages et des âmes est aussi fade et peu variée dans les salons que la musique des musiciens. Chacun a sa manière et ses figes. Le sourire d'une jolie femme est aussi stéréotypé dans la grâce étudiée qu'une mélodie parisienne. Les hommes sont encore plus insipides que les femmes. Sous l'influence débilitante du monde, les énergies s'émoussent, les caractères originaux s'atténuent et s'effacent avec une rapidité effrayante. Christophe était frappé du nombre de morts et de mourants qu'il rencontrait parmi les artistes. Tel jeune musicien, plein de sève et de génie, que le succès avait annulé. Il ne pensait plus qu'à renifler les flagorneries dont on l'asphyxiait, à jouir et à dormir. Ce qu'il deviendrait, 20 ans plus tard, on le voyait, à l'autre coin du salon, sous la forme de ce vieux maître pommadé, riche, célèbre, membre de toutes les académies, arrivé au fait, n'ayant plus, semblait-il, rien à craindre et rien à ménager, qui s'aplatissait devant tous, peureux devant l'opinion, le pouvoir et la presse, n'osant dire ce qu'il pensait, et d'ailleurs ne pensant plus, n'existant plus, s'exhibant, âne chargé de ses propres reliques. Derrière chacun de ces artistes et de ces gens d'esprit, qui avaient été grands ou qui auraient pu l'être, on pouvait être sûr qu'il y avait une femme qui les rongeait. Elles étaient toutes dangereuses, celles qui étaient sottes et celles qui ne l'étaient point, celles qui aimaient et celles qui s'aimaient. Les meilleures étaient les pires, car elles étouffaient d'autant plus sûrement l'artiste sous l'éteignoir de leur affection mal avisée, qui de bonne foi s'appliquait à domestiquer le génie, à le niveler, élaguer, ratisser, parfumer, jusqu'à ce qu'il fût à la mesure de leur sensibilité et de leur petite vanité, de leur médiocrité et de celle de leur monde. Bien que Christophe ne fît que passer dans ce monde, il en vit assez pour sentir le danger. Plus d'une cherchait à l'accaparer pour son salon, pour son service, et Christophe n'avait pas été sans happer à demi l'hameçon des sourires prometteurs. Sans son robuste bon sens et l'exemple inquiétant des transformations opérées autour d'elle par les modernes Circé, il n'eut pas échappé. Mais il ne tint pas à grossir le troupeau de ces belles gardeuses de dindons. Le risque eût été plus grand pour lui si elles avaient été moins à le poursuivre. À présent que tous étaient bien convaincus qu'ils avaient un génie parmi eux, suivant leur habitude, ils s'évertuaient à l'étouffer. Ces gens-là n'ont qu'une idée. Quand ils voient une fleur, la mettre en pot, un oiseau, le mettre en cage, un homme libre, en faire un valet. Christophe, un moment troublé, se ressaisit aussitôt et les envoya tous promener. Le destin est ironique. Il laisse passer les insouciants à travers les mailles de son filet, mais ce qu'il se garde bien de manquer, ce sont ceux qui se méfient, les prudents, les avertis. Ce ne fut pas Christophe qui fut pris dans la nasse parisienne, ce fut Olivier. Il avait bénéficié du succès de son ami. La renommée de Christophe avait rejailli sur lui. Il était plus connu maintenant pour avoir été l'homme qui avait découvert Christophe que pour tout ce qu'il avait écrit depuis 6 ans. Il reçut donc sa part des invitations adressées à Christophe, et il l'accompagna dans l'intention de le surveiller discrètement. Sans doute était-il trop absorbé par cette tâche pour se surveiller lui-même. L'amour passa et le prit. C'était une blonde adolescente, maigre et charmante, aux fins cheveux ondulants comme de petits flots autour du front étroit et limpide, de fins sourcils sur des paupières un peu lourdes, les yeux d'un bleu de pervenche, un nez délicat aux narines palpitantes, les tempes légèrement creusées, le menton capricieux, une bouche spirituelle et voluptueuse au coin relevé, le sourire parmesanesque d'un petit faune pur. Elle avait le cou long et frêle, le corps d'une maigreur élégante, quelque chose d'heureux et de soucieux dans sa jeune figure qu'enveloppait l'énigme inquiétante du printemps qui s'éveille, Frühlingserwachen. Elle se nommait Jacqueline Langeais. Elle n'avait pas 20 ans. Elle était de famille catholique, riche, distinguée, d'esprit libre. Son père, ingénieur intelligent, inventif et débrouillard, ouvert aux idées nouvelles, avait fait sa fortune grâce à son travail, ses relations politiques et son mariage. Mariage d'amour et d'argent. Le seul vrai mariage d'amour pour ces gens-là. Avec une jolie femme, très parisienne, du monde de la finance. L'argent était resté, l'amour était parti. Il s'en était conservé pourtant quelques étincelles, car il avait été vif de part et d'autre, mais il ne se piquait pas d'une fidélité exagérée. Chacun allait à ses affaires et à ses plaisirs, et ils s'entendaient ensemble en bons camarades égoïstes, sans scrupules et prudents. Leur fille était entre eux un lien, tout en faisant l'objet d'une rivalité sourde, car ils l'aimaient jalousement. Chacun se retrouvait en elle avec ses défauts préférés, qu'idéalisait la grâce de l'enfance, et il cherchait sournoisement à la dérober à l'autre. L'enfant n'avait pas manqué de le sentir, avec la candeur rouée de ces petits êtres qui n'ont que trop tendance à croire que l'univers gravite autour d'eux. Et elle en tira parti. Elle provoquait entre eux une surenchère d'affection. Il n'était pas un caprice qu'elle ne fût certaine de voir favorisé par l'un si l'autre le refusait. Et l'autre était si vexé d'avoir été distancé qu'aussitôt il l'offrait encore plus que le premier n'avait accordé. Elle avait été indignement gâtée, et il était heureux que sa nature n'eût rien de mauvais, si ce n'était l'égoïsme, commun à presque tous les enfants, mais qui, chez les enfants trop choyés et trop riches, prend des formes maladives qu'il doit à l'absence d'obstacles. Monsieur et Madame Langeais, qui l'adoraient, se seraient pourtant bien gardés de lui rien sacrifier de leur convenance personnelle. Il laissait l'enfant seul une grande partie du jour. Le temps ne lui manquait point pour songer. Précoce et vite averti par les propos imprudents tenus en sa présence, car on ne se gênait guère, quand elle avait 6 ans, elle racontait à ses poupées de petites histoires d'amour dont les personnages étaient le mari, la femme et l'amant. Il va de soi qu'elle n'y entendait pas malice. Du jour où elle entrevit sous les mots l'ombre d'un sentiment, ce fut fini pour les poupées. Elle garda ses histoires pour elle. Elle avait un fond de sensualité innocente qui résonnait dans le lointain comme des cloches invisibles là-bas, de l'autre côté de l'horizon. Par moments, le vent lui en apportait des bouffées. Cela sortait, on ne savait d'où, on en était enveloppé, on se sentait rougir, la respiration vous manquait de peur et de plaisir. On n'y comprenait rien. Et puis cela disparaissait comme cela était venu. Rien ne s'entendait plus. À peine un bourdonnement, une résonance imperceptible, diluée dans l'air bleu. On savait seulement que c'était là-bas, de l'autre côté de la montagne, et que là-bas il fallait aller, aller le plus vite possible. Là-bas était le bonheur. Ah, pourvu qu'on arrivât. En attendant qu'on y fût parvenu, on se faisait d'étranges idées sur ce qu'on trouverait. Car la grande affaire, pour l'intelligence de cette petite fille, était de le deviner. Elle avait une amie de son âge, Simone Adam, avec qui elle s'entretenait de ces graves sujets. Chacune apportait ses lumières, son expérience de 12 ans, les conversations entendues et les lectures butinées en cachette. Dressées sur la pointe des pieds et s'accrochant aux pierres, les deux fillettes s'évertuaient à voir par-dessus le vieux mur qui leur cachait l'avenir. mais elles avaient beau faire et prétendre qu'elles voyaient à travers les fissures, elles ne voyaient rien du tout. Elles étaient un mélange de candeur, de polissonnerie poétique et d'ironie parisienne. Elles disaient des choses énormes sans s'en douter, et de choses toutes simples, elles se faisaient les mondes. Jacqueline, qui furetait partout sans que personne y trouvât à redire, fourrait son petit nez dans tous les livres de son père. Heureusement, elle était protégée contre les mauvaises rencontres par son innocence même et son instinct de petite fille très propre. Il suffisait d'une scène ou d'un mot un peu cru pour la dégoûter. Tout de suite, elle laissait le livre et passait au milieu des compagnies infâmes comme une chatte effarouchée parmi les flaques d'eau sale, sans une éclaboussure. Les romans l'attiraient peu. Ils étaient trop précis et trop secs. Ce qui lui faisait battre le cœur d'émoi et d'espérance, c'était le livre des poètes, ceux qui parlaient d'amour, bien entendu. Il se rapprochait un peu de sa mentalité de petite fille. Il ne voyait pas les choses, il les imaginait, à travers le prisme du désir ou du regret. Ils avaient l'air de regarder, comme elle, par les fentes du vieux mur. Mais il savait bien plus de choses. Il savait toutes les choses qu'il s'agissait de savoir, et il les enveloppait de mots très doux et mystérieux qu'il fallait démailloter avec d'infinies précautions pour trouver... Ah, l'on ne trouvait rien, mais l'on était toujours sur le point de trouver. Les deux curieuses ne se lassaient point. Elles se répétaient à mi-voix, avec un petit frisson, des vers d'Alfred de Musset ou de Sully Prudhomme, où elles imaginaient des abîmes de perversité. Elles les copiaient. Elle s'interrogeait sur le sens caché de passage, qui parfois n'en avait pas. Ces petites bonnes femmes de 13 ans, innocentes et effrontées, qui ne savaient rien de l'amour, discutaient, moitié rieuses, moitié sérieuses, sur l'amour et la volupté. Et elles griffonnaient sur leur buvard, en classe, sous l'œil paterne du professeur, un vieux papa très doux et très poli, des vers comme ceux qu'il saisit un jour et dont il fut suffoqué. Laissez, oh, laissez-moi vous tenir enlacés, boire dans vos baisers des amours insensés, goutte à goutte et longtemps. Elle suivait les cours d'une institution richement achalandée, dont les professeurs étaient des maîtres de l'université. Elles y trouvèrent l'emploi de leurs aspirations sentimentales. Presque toutes ces petites filles étaient amoureuses de leurs professeurs. Il suffisait qu'ils fussent jeunes et pas trop mal tournés pour faire des ravages dans les cœurs. Elles travaillaient comme des anges pour se faire bien voir de leur sultan. C'était des pleurs quand, aux compositions, on était mal classé par lui. S'il faisait des éloges, on rougissait, on pâlissait, on lui décochait des œillades reconnaissantes et coquettes. Et s'il vous appelait à part, pour donner des conseils ou faire des compliments, c'était le paradis. Il n'était pas besoin d'être un aigle pour leur plaire. À la leçon de gymnastique, quand le professeur prenait Jacqueline dans ses bras pour la suspendre au trapèze, elle en avait une petite fièvre. Et quelle émulation enragée! Quel transport de jalousie! Quel coup d'œil humble et enjôleur au maître pour tâcher de le reprendre à une insolente rivale! Au cours, lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, les plumes et les crayons se précipitaient pour le suivre. Elle ne cherchait pas à comprendre. La grande affaire était de ne pas perdre une syllabe. Et tandis qu'elles écrivaient, sans que leur regard curieux cessât de détailler furtivement la figure et les gestes de l'idole, Jacqueline et Simone se demandaient tout bas « Crois-tu qu'il serait bien avec une cravate à pois bleus ?» Puis ce fut un idéal de gros mots, de livres de vers romanesques et mondains, de gravures de mode poétiques, des amours pour des acteurs, des virtuoses, des auteurs morts ou vivants, Mounet, Sully, Samain, Debussy, les regards échangés avec des jeunes gens inconnus au concert, dans un salon, dans la rue, et les passionnettes aussitôt ébauchées en idées. Un besoin perpétuel de s'éprendre, d'être occupé d'un amour, d'un prétexte à aimer. Jacqueline et Simone se confiaient tout, preuve évidente qu'elles ne sentaient pas grand-chose. C'était même le meilleur moyen pour n'avoir jamais un sentiment profond. En revanche, cela tournait à l'état de maladie chronique dont elles étaient les premières à se moquer, mais qu'elles cultivaient amoureusement. Elles s'exaltaient l'une l'autre. Simone, romanesque et prudente, imaginait plus d'extravagance. Mais Jacqueline, sincère et ardente, était plus près de les réaliser. 20 fois, elle faillit commettre les pires sottises. Toutefois, elle ne les commit point. C'est le cas ordinaire chez les adolescents. Il y a des heures où ces pauvres petites bêtes affolées, que nous avons tous été, sont à deux doigts de se jeter, ceci dans le suicide, celle-là dans les bras du premier venu. Seulement, grâce à Dieu, presque tous en restent là. Jacqueline écrivit 10 brouillons de lettres passionnées à des gens qu'à peine connaissait-elle de vue. Mais elle n'en envoya rien, sauf une lettre enthousiaste qu'elle ne signa point à un critique laid, vulgaire, égoïste, de cœur sec et d'esprit rétréci. Elle s'en était éprise pour 3 lignes où elle avait découvert des trésors de sensibilité. Elle s'enflamma aussi pour un grand acteur. Il habitait près de chez elle. Chaque fois qu'elle passait devant la porte, elle se disait « si j'entrais ». Et une fois, elle eut la hardiesse de monter à son étage. Une fois là, elle prit la fuite. De quoi lui eût-elle parlé? Elle n'avait rien, rien du tout à lui dire. Elle ne l'aimait point. Et elle le savait bien. Il y avait pour moitié dans ses folies une duperie volontaire, et pour l'autre moitié, c'était l'éternel et délicieux et stupide besoin d'aimer. Comme Jacqueline était d'une race très intelligente, elle n'en ignorait rien. Cela ne l'empêchait point d'être folle. Un fou qui se connaît en vaut 2. Elle allait beaucoup dans le monde. Elle était entourée de jeunes gens qui subissaient son charme et dont plus d'un l'aimait. Elle n'en aimait aucun et flirtait avec tous. Elle ne se souciait pas du mal qu'elle pouvait faire. Une jolie fille se fait un jeu cruel de l'amour. Il lui semble tout naturel qu'on l'aime, et elle ne se croit tenue à rien qu'envers celui qu'elle aime. Volontiers, elle croirait que qui l'aime est déjà bien assez heureux. Il faut dire, pour son excuse, qu'elle ne se doute point de ce qu'est l'amour, quoiqu'elle y pense toute la journée. On se figure qu'une jeune fille du monde, élevée en serre chaude, est plus précoce qu'une fille des champs. Et c'est tout le contraire. Les lectures, les conversations ont bien créé chez elle une hantise de l'amour qui, dans sa vie inoccupée, frise souvent la manie. Il arrive même parfois qu'elle ait lu la pièce d'avance et en sache par cœur tous les mots. Aussi ne la sent-elle point. En amour comme en art, il ne faut pas lire ce que les autres ont dit. Il faut dire ce qu'on sent, et qui se presse de parler avant d'avoir rien à dire risque fort de ne dire jamais rien. Jacqueline, comme la plupart des jeunes filles, vivait donc au milieu de cette poussière de sentiments vécue par d'autres, qui, tout en la maintenant dans une petite fièvre perpétuelle, les mains brûlantes, la gorge sèche et les yeux irrités, l'empêchaient de voir les choses. Elle croyait les connaître. Ce n'était pas la bonne volonté qui lui manquait. Elle lisait et elle écoutait. Elle avait beaucoup appris de ci, de là, par bribes, dans la conversation et dans les livres. Elle tâchait même de lire en soi. Elle valait mieux que le milieu où elle vivait. Elle était plus vraie. Une femme eut, trop peu de temps, sur elle une influence bienfaisante. Une sœur de son père, qui ne s'était point mariée. De 40 à 50 ans, les traits réguliers, mais tristes et sans beauté, Marthe Langeais était toujours vêtue de noir. Elle avait dans ses gestes une distinction étriquée. Elle parlait à peine, d'une voix presque basse. Elle eût passé inaperçue, sans le regard clair de ses yeux gris et le bon sourire de sa bouche mélancolique. On ne la voyait chez les Langeais qu'à de certains jours, quand ils étaient seuls. Langeais avait pour elle un respect mêlé d'ennui. Madame Langeais ne cachait point à son mari le peu de plaisir qu'elle trouvait à ses visites. Il s'obligeait pourtant, par devoir de convenance, à la revoir régulièrement à dîner, un soir par semaine, et il ne lui montrait pas trop que c'était un devoir. Langeais parlait de lui, ce qui l'intéressait toujours. Madame Langeais pensait à autre chose, souriant par habitude, et répondait au petit bonheur. Tout se passait très bien, avec beaucoup de politesse. Cela ne manquait même point d'effusions affectueuses, quand la tante, qui était discrète, prenait congé plus tôt qu'on ne l'eût espéré. Et le charmant sourire de Madame Langeais se faisait plus rayonnant les jours où elle avait en tête des souvenirs particulièrement agréables. La tante Marthe voyait tout. Peu de choses échappaient à son regard. Et elle en remarquait beaucoup dans la maison de son frère qui la choquait ou la tristait. Mais elle n'en montrait rien. À quoi cela eût-il servi? Elle aimait son frère Elle avait été fière de son intelligence et de ses succès, ainsi que le reste de la famille, qui n'avait pas cru trop payer de sa gêne le triomphe du fils aîné. Elle, du moins, avait gardé son jugement. Aussi intelligente que lui, et mieux trempée moralement, plus virile, comme le sont tant de femmes de France, si supérieures aux hommes, elle voyait clair en lui, et quand il demandait son avis, elle le disait franchement. Mais il y avait beau temps que Langeais ne le demandait plus. Il trouvait plus prudent de ne pas savoir, ou, car il savait autant qu'elle, de fermer les yeux. Elle, par orgueil, se repliait à l'écart. Personne ne s'inquiétait de sa vie intérieure. Il était plus commode de l'ignorer. Elle vivait seule, sortait peu, et n'avait qu'un petit nombre d'amis qui n'étaient pas très intimes. Il lui eût été facile de tirer parti des relations de son frère et de ses propres talents. Elle ne le faisait point. Elle avait écrit dans une des grandes revues parisiennes deux ou trois articles, des portraits historiques et littéraires, dont le style sobre, juste, frappant, avait été remarqué. Elle en resta là. Elle aurait pu nouer des amitiés intéressantes avec des hommes distingués qui lui avaient témoigné de l'intérêt et qu'elle eût été peut-être bien aise de connaître. Elle ne répondit pas à leurs avances. Il lui arrivait, ayant retenu sa place à un spectacle où l'on jouait de belles œuvres qu'elle aimait, de ne pas y aller, et, pouvant faire un voyage qui l'attirait, de rester chez elle. Sa nature était un curieux amalgame de stoïcisme et de neurasthénie. Celle-ci n'effleurait en rien l'intégrité de sa pensée. Sa vie était atteinte, mais non pas son esprit. Une peine ancienne, qu'elle était seule à savoir, l'avait marquée au cœur, et plus profonde encore, plus inconnue, inconnue même d'elle, était la marque du destin, le mal intérieur qui déjà la rongeait. Cependant, les Langeais ne voyaient d'elle que son clair regard, qui parfois les gênait. Jacqueline ne prêtait guère attention à la tante quand elle était insouciante et heureuse, ce qui fut d'abord son état ordinaire. Mais quand elle arriva à l'âge où se fait dans le corps et dans l'âme un travail inquiétant qui livre à des angoisses, des dégoûts, des terreurs, des tristesses éperdues, dans ces moments de vertige absurde et atroce qui ne durent pas heureusement, mais où l'on se sent mourir, l'enfant qui se noyait et qui n'osait pas crier au secours, vit seule, à côté d'elle, la tante Marthe qui lui tendait la main. Ah, que les autres étaient loin! Étrangers, son père et sa mère, avec leur égoïsme affectueux, trop satisfaits de soi pour songer au petit chagrin d'une poupée de 14 ans. Mais la tante les devinait, et elle y compatissait. Elle ne disait rien, elle souriait simplement. Par-dessus la table, elle échangeait avec Jacqueline un regard de bonté. Jacqueline sentait que sa tante comprenait, et elle venait se réfugier auprès d'elle. Marthe mettait sa main sur la tête de Jacqueline et la caressait sans parler. La fillette se confiait. Elle allait faire visite à sa grande amie quand son cœur était gonflé. À quelque moment qu'elle vint, elle était sûre de trouver les mêmes yeux indulgents qui verseraient sur elle un peu de leur tranquillité. Elle ne parlait guère à la tante de ses passionnates imaginaires. Elle en aurait eu honte. Elle sentait que ce n'était point vrai. Mais elle disait ses inquiétudes vagues et profondes, plus réelles, seules réelles. « Tante, soupirait-elle parfois, je voudrais tant être heureuse. »« Pauvre petite, disait Marthe en souriant. » Jacqueline appuyait sa tête contre les genoux de la tante et, baisant les mains qui la caressaient, « Est-ce que je serai heureuse ? Tante, dis-moi, est-ce que je serai heureuse ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend un peu de toi. On peut toujours être heureux, quand on veut. » Jacqueline était incrédule. « Est-ce que tu es heureuse, toi ?» Marthe souriait mélancoliquement. « Oui. »« Non, vrai, tu es heureuse ?»« Est-ce que tu ne le crois pas ?»« Si, mais... » Jacqueline s'arrêtait. « Quoi donc ?»« Moi, je voudrais être heureuse, mais pas de la même façon que toi. »« Pauvre petit, je l'espère aussi, » dit Marthe. « Non, continuait Jacqueline, en secouant la tête avec dérision, moi, d'abord, je ne pourrais pas. Moi non plus, je n'aurais pas cru que je pourrais. La vie vous apprend à pouvoir bien des choses. « Oh, mais je ne veux pas apprendre, » protestait Jacqueline, inquiète. « Je veux être heureuse comme je veux, moi. » Tu serais bien embarrassé si on te demandait comment.
Je sais très bien ce que je veux. »
Elle voulait beaucoup de choses, mais quand il s'agissait de les dire, elle n'en trouvait plus qu'une, qui revenait toujours comme un refrain. « D'abord, je voudrais qu'on m'aime. » Marthe cousait en silence. Après un moment, elle dit « Et à quoi cela te servira-t-il si tu n'aimes pas ?» Jacqueline, interloquée, s'exclama « Mais, tante, bien sûr que je ne parle pas de ce que j'aime. Le reste, ça ne compte pas. Et si tu n'aimais rien ?»
Quelle idée! On aime toujours, toujours!
Marthe secouait la tête d'un air de doute. On n'aime pas, dit-elle, on veut aimer. Aimer est une grâce de Dieu la plus grande. Prie-le qu'il te la fasse.
Et si on ne m'aime pas?
Même si on ne t'aime pas, tu seras encore plus heureuse. La figure de Jacqueline s'allongea. Elle prit une mine boudeuse.
Je ne veux pas, dit-elle. Cela ne me ferait aucun plaisir.
Marthe rit affectueusement, regarda Jacqueline, soupira, puis se remit à son ouvrage.
« Pauvre petite, » fit-elle encore.
« Mais pourquoi dis-tu toujours « pauvre petite » ? » demanda Jacqueline, pas très rassurée.
« Je ne veux pas être une pauvre petite. Je veux tant, tant être heureuse. »
« C'est bien pour cela que je dis « pauvre petite. » Jacqueline boudait un peu. Mais cela ne durait pas longtemps. Le bon rire de Marthe la désarmait. Elle l'embrassait en feignant d'être fâchée. Au fond, on ne laisse pas, à cet âge, d'être secrètement flatté des présages mélancoliques pour plus tard, beaucoup plus tard. De loin, le malheur s'auréole de poésie, et l'on ne craint rien tant que la médiocrité de la vie. Jacqueline ne s'apercevait point que le visage de la tante devenait toujours plus blême. Elle remarquait bien que Marthe sortait de moins en moins. Mais elle l'attribuait à sa manie casanière dont elle se moquait. Une ou deux fois, en venant faire visite, elle croisa le médecin qui sortait. Elle avait demandé à la tante « Est-ce que tu es malade ?» Marthe répondait « Ce n'est rien. » Mais voici qu'elle cessait même de venir au dîner hebdomadaire chez les Langeais. Jacqueline, indignée, alla lui en faire des reproches amers. « Ma chérie, disait doucement Marthe, je suis un peu fatiguée. » Mais Jacqueline ne voulait rien entendre. Mauvais prétexte. Belle fatigue de venir chez nous 2 heures par semaine. Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que le coin de ton feu. Mais quand elle raconta chez elle, toute fière, son algarade, Langeais la tança vertement. Laisse ta tante tranquille. Tu ne sais donc pas que la pauvre femme est très malade? Jacqueline pâlit, et d'une voix tremblante, elle demanda ce qu'avait la tante. On ne voulait pas le lui dire. À la fin, elle réussit à savoir que Marthe se mourait d'un cancer à l'intestin. Il y en avait pour quelques mois. Jacqueline eut des jours d'épouvante. Elle se rassurait un peu quand elle voyait la tante. Marthe, par bonheur, ne souffrait pas trop. Elle gardait son sourire tranquille, qui, sur son visage diaphane, paraissait le reflet d'une lampe intérieure. Jacqueline se disait « Non, ce n'est pas possible, ils se sont trompés. Elle ne serait pas si calme. » Elle reprenait le récit de ses petites confidences, auxquelles Marthe prêtait encore plus d'intérêt qu'avant. Seulement, parfois, au milieu de la conversation, la tante sortait de la chambre sans trahir qu'elle souffrit. Et elle ne reparaissait que lorsque la crise était passée et ses traits rassérénés. Elle ne voulait point d'allusion à son état. Elle essayait de le cacher. Peut-être avait-elle besoin de n'y pas trop penser. Le mal dont elle se savait rongée lui faisait horreur, elle en détournait son esprit. Tout son effort était de ne plus troubler la paix de ces derniers mois. Le dénouement fut plus prompt qu'on ne pensait. Bientôt elle ne reçut plus personne que Jacqueline. Puis les visites de Jacqueline durent devenir plus brèves. Puis vint le jour de la séparation. Marthe, étendue dans son lit, d'où elle ne sortait plus depuis des semaines, prit congé tendrement de sa petite amie, avec des mots très doux et consolants. Et puis elle s'enferma pour mourir. Jacqueline passa par des mois de désespoir. La mort de Marthe coïncidait avec les pires heures de cette détresse morale contre laquelle Marthe était la seule à la défendre. Elle se trouva dans un abandon indicible. Elle aurait eu besoin d'une foi qui la soutint. Il semblait que ce soutien n'aurait pas dû lui manquer.
On lui avait fait pratiquer ses devoirs religieux. Sa mère les pratiquait exactement aussi. Mais voilà, justement, sa mère les pratiquait. Mais la tante Marthe ne les pratiquait pas. Et le moyen de ne pas faire la comparaison. Les yeux d'enfants saisissent bien des mensonges que les plus âgés ne pensent plus à remarquer. Ils notent bien des faiblesses et des contradictions. Jacqueline observait que sa mère et ceux qui disaient croire avaient aussi peur de la mort que s'ils n'avaient pas cru. Non, ce n'était pas là un soutien suffisant. Par là-dessus, des expériences personnelles, des révoltes, des répugnances, un confesseur maladroit qui l'avait blessée. Elle continuait de pratiquer, mais sans foi, comme on fait des visites parce qu'on est bien élevé. La religion, comme le monde, lui paraissait néant. Son seul recours était le souvenir de la morte dont elle s'enveloppait. Elle avait beaucoup à se reprocher envers celle que, naguère, son égoïsme juvénile négligeait et qu'aujourd'hui il appelait en vain. Elle idéalisait sa figure, et le grand exemple que Marthe lui avait laissé d'une vie profonde et recueillie lui faisait prendre en dégoût la vie du monde, sans sérieux et sans vérité. Elle n'en voyait plus que les hypocrisies, et ses aimables compromissions, qui, en d'autres temps, l'eussent amusée, la révoltaient. Elle avait une hyperesthésie morale. Tout la faisait souffrir. Sa conscience était à nu. Ses yeux s'ouvrirent sur certains faits qui avaient échappé jusque-là à son insouciance. Un d'entre eux la blessa jusqu'au sang.
Elle était, une après-midi, dans le salon de sa mère. Madame Langer avait une visite, un peintre à la mode, bellâtre et prétentieux, habitué de la maison, mais non pas très intime. Jacqueline crut sentir que sa présence gênait les deux autres. D'autant plus, elle resta. Madame Langer, légèrement énervée, la tête engourdie par un peu de migraine, ou par un de ces cachets contre la migraine que les dames d'aujourd'hui croquent comme des bonbons et qui achèvent de vider leur petit cerveau, ne surveillait pas trop ce qu'elle disait. Au cours de la conversation, elle appela étourdiment le visiteur « Mon chéri ». Elle s'en aperçut aussitôt. Il ne broncha pas plus qu'elle, et ils poursuivirent leur causerie cérémonieuse. Jacqueline, qui était occupée à servir le thé, faillit, dans son saisissement, laisser glisser une tasse. Elle eut l'impression que derrière son dos, ils échangeaient un sourire d'intelligence. Elle se retourna et saisit leurs regards complices qui, sur le champ, se voilèrent. Sa découverte la bouleversa. Cette jeune fille, librement élevée, qui avait souvent entendu parler et qui parlait elle-même en riant d'intrigues de ce genre, éprouva une souffrance intolérable quand elle vit que sa mère, non, ce n'était pas la même chose. Avec son exagération ordinaire, elle passa d'un extrême à l'autre. Elle n'avait rien soupçonné jusque-là. Dès lors, elle soupçonna tout. Elle s'acharnait à interpréter tel ou tel détail dans la conduite passée de sa mère. Et sans doute, la légèreté de Madame Langer ne prêtait que trop à ses suppositions. Mais Jacqueline y ajoutait. Elle eût voulu se rapprocher de son père, qui avait toujours été plus près d'elle, et dont l'intelligence avait pour elle beaucoup d'attrait. Elle eût voulu l'aimer davantage, le plaindre. Mais Langer ne semblait avoir aucun besoin d'être plaint, et l'esprit surexcité de la jeune fille fut traversé de ce soupçon, plus affreux encore que le premier, que son père n'ignorait rien, mais qu'il trouvait plus commode de ne rien savoir, et que pourvu qu'il agît lui-même à sa guise, le reste lui était indifférent. Alors Jacqueline se sentit perdue. Elle n'osait pas les mépriser, elle les aimait, mais elle ne pouvait plus vivre là. Son amitié pour Simone Adam ne lui était d'aucun secours. Elle jugeait avec sévérité les faiblesses de son ancienne compagne. Elle ne s'épargnait pas. Elle souffrait de ce qu'elle voyait en elle de laid et de médiocre. Elle s'accrochait désespérément au souvenir pur de Marthe. Mais ce souvenir même s'effaçait. Elle sentait que le flot des jours le recouvrirait, en laverait l'empreinte. Et alors, tout serait fini. Elle serait pareille aux autres, noyée dans le bourbier. Oh, sortir à tout prix de ce monde! Sauvez-moi, sauvez-moi !